À l'écoute de RFI, 19h, ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir,
Margot Ratézic.
Et c'est à vous, Margot Ratézic. Bonsoir.
Bonsoir, Romain. Bonsoir à tous. À la une, le suspect de l'attaque à la Nouvelle-Orléans aurait agi seul et au nom du groupe État islamique, nous apprend le FBI. Nous rejoindrons notre envoyé spécial permanent aux États-Unis. Dans ce journal également, nous reviendrons sur les opérations de ratissage des forces de sécurité en Syrie. Elles quadrillent un quartier à la Houit de Homs, minorité de l'ancien régime Assad. En Corée du Sud, vous entendrez les soutiens du président déchu, Yoon Suk-yeol, qui refuse toujours de se rendre malgré un mandat d'arrêt. Enfin, nous retrouverons notre correspondant à Marseille où le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a réaffirmé sa fermeté face au trafic de drogue.
Et puis juste après ce grand journal du soir, eh bien nous irons en Syrie pour recueillir les réactions de la population à la main tendue des nouvelles autorités vers les nombreuses minorités. C'est une politique, vous le verrez, qui est diversement appréciée.
RFI Soir.
Et pour débuter, on en sait un peu plus sur l'attaque meurtrière à la voiture Bélier à la Nouvelle-Orléans.
Oui, le FBI a tenu il y a quelques heures une conférence de presse, conférence que vous avez suivie pour nous. David Thompson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes envoyé spécial permanent de RFI aux États-Unis et on apprend, David, que le suspect aurait agi seul et au nom du groupe État islamique.
Oui, aucune autre personne impliquée dans cette attaque en dehors de son auteur présumé, Shamsuddin Jabbar. C'est ce que vient d'annoncer effectivement Christopher Raya, un des dirigeants du FBI en conférence de presse. Le FBI qui confirme la nature terroriste de cette attaque. Selon la police fédérale américaine, c'est bien un djihadiste qui a projeté son pick-up dans la foule et fait 14 morts dans le cœur historique de la Nouvelle-Orléans la nuit du réveillon sur son compte Facebook. 5 vidéos ont été retrouvées par les enquêteurs, des vidéos enregistrées la veille de la tuerie, dans lesquelles Din Jabbar prête allégeance au groupe État islamique. Lors de l'attaque, il avait d'ailleurs arboré un drapeau de l'État islamique et dans ses vidéos, il parle de guerre contre les infidèles et il explique qu'il voulait d'abord s'en prendre à sa famille et à ses amis. Autre information importante annoncée lors de cette conférence de presse, à ce stade, le FBI ne trouve pas de lien irréfutable entre cette attaque de la Nouvelle-Orléans et une autre, l'explosion du Cybertruck de Tesla devant la tour Trump de Las Vegas, explosion qui était survenue le même soir à quelques heures d'intervalle.
Merci David Thompson pour ces précisions. Et à la Nouvelle-Orléans, même si les habitants restent profondément choqués, le match de football américain qui devait se tenir hier aura bien lieu ce jeudi. Un match hautement surveillé mais que la ville tenait à organiser malgré tout. Je vous propose d'écouter la réaction de Matthew, fan de football, venu tout spécialement à la Nouvelle-Orléans pour suivre cette rencontre.
Le match a été reporté parce qu'ils voulaient vérifier s'il y avait des explosifs ou d'autres suspects qui auraient pu être impliqués. Et d'après ce que j'ai compris, il semble que tout est normal. Je ne dirais pas que je suis rassuré à 100%, mais je le suis suffisamment pour aller au stade. Vous savez, le soir du réveillon, j'étais sur Bourbon Street quelques heures avant l'attentat. Et aujourd'hui, on a toujours à l'esprit qu'il pourrait se passer quelque chose d'autre. Et s'il devait y avoir quelque chose, je suppose que ce serait dans un endroit plein à craquer, comme dans un stade. C'est vrai, nous sommes ici pour un match de foot, mais il s'est passé quelque chose de plus important. Alors, comment surmonter tout cela? En tout cas, d'après ce que j'ai compris, il y aura une minute de silence au début du match pour toutes les victimes de l'attentat. Et il est évident que tout le monde aura en tête ce qui s'est passé.
Un propos recueilli par Daniel Valo.
Dans l'actualité de ce jeudi soir, également 3 jours de deuil national décrété au Monténégro.
Le sud du pays a été le théâtre d'une fusillade dans un restaurant ce mercredi. 12 personnes ont été tuées, dont 2 enfants. Le meurtrier, lui, s'est suicidé. Le Premier ministre évoque une bagarre qui a dégénéré au cours de laquelle des armes ont été dégainées. Il a annoncé de nouvelles restrictions autour des armes à feu au Monténégro.
Il est 21h04 à Homs. On évoque à présent cette opération de ratissage en Syrie.
Les forces de sécurité ont quadrillé des quartiers alaouites. C'est la minorité à laquelle appartient l'ancien régime Assad, renversé il y a 3 semaines. Les nouvelles autorités traquent désormais les anciens responsables syriens, comme à Homs. Les précisions de Julien Chavanne.
C'est une véritable opération de ratissage que les forces de sécurité ont lancée dans cette ville du centre de la Syrie. Les habitants sont appelés à rester chez eux. Un couvre-feu a été instauré. Des forces d'infanterie et des blindés sont déployés déployés. Le raid vise des criminels de guerre, selon une source sécuritaire. Les autorités affirment que des milices de Bachar al-Assad seraient cachées à Homs. Mais d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il s'agit plutôt d'une opération de représailles contre la minorité alaouite, une branche minoritaire de l'islam chiite, dont est issu le président renversé Bachar al-Assad. La semaine dernière, des milliers de personnes avaient manifesté après la diffusion d'une vidéo non vérifiée montrant une attaque contre un sanctuaire alaouite dans le nord du pays. Un manifestant avait été tué et 5 autres blessés à Homs par les forces de sécurité, selon l'OSDH. La violation des foyers et les menaces de mort à caractère sectaire à Homs menacent l'unité de la Syrie, a prévenu sur Facebook Mouna Ghanem, une ex-opposante du régime renversé.
Julien Chavanne du service international de RFI.
Et puis également au Proche-Orient, l'autorité palestinienne qui suspend la diffusion et les activités d'Al Jazeera dans les territoires palestiniens.
Décision dénoncée par la chaîne de télévision qatarienne ainsi que par l'ONU. Le média qatarien est accusé de désinformation par l'autorité palestinienne, mais aussi d'ingérence et d'incitation à la sédition.
Il promet de se battre jusqu'à la fin.
Le président sud-coréen, déchu par le Parlement, refuse toujours de se rendre. Yoon Suk-yeol est sous le coup d'un mandat d'arrêt, mais il ne s'est pas présenté aux nombreuses convocations des enquêteurs. Les autorités le poursuivent pour rébellion après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. La Cour constitutionnelle doit encore se prononcer sur sa destitution. Yoon Suk-yeol est donc toujours officiellement en poste, mais même s'il est suspendu de ses fonctions. Et il peut compter sur le soutien de manifestants ultra-conservateurs. Certains sont venus le défendre dans le quartier de Hanan, à Séoul. Notre correspondante sur place, Camille Ruiz, les a rencontrés.
Devant la résidence officielle du président, les manifestants agitent des drapeaux sud-coréens et américains. Une bannière appelle à dissoudre l'Assemblée nationale. Kang Tae, 60 ans, est venu s'opposer au mandat d'arrêt délivré contre Yoon Suk-yeol.
Si ce processus illégal nous enlève notre président, nous prend notre liberté, nous avons le devoir de l'arrêter, même s'il faut aller se battre pour ça. C'est ce que je suis venu faire ici. S'il y a un prix à payer pour défendre le président Yoon Suk-yeol, je le paierai.
Pom Sok, en treillis militaire et chapeau, se tient parmi les manifestants.
Notre peuple doit s'opposer à cette arrestation et la faire échouer. Si on ne réussit pas, notre pays va tomber dans le communisme. Nous faisons face à un criminel de guerre, menteur, tyrannique, Lee Jae-myung, qui sous la direction de la Chine et de la Corée du Nord essaye de devenir président de notre pays.
L'ancien soldat en est convaincu. Lee Jae-myung, leader du principal parti d'opposition, le Parti démocrate, organise un complot avec l'aide de Pékin et Pyongyang. Une théorie sans fondement véhiculée par les youtubeurs sud-coréens d'extrême droite, d'après les médias locaux. Mercredi 1er janvier, les enquêteurs ont prévenu toute personne qui s'oppose à l'arrestation du président Yoon Suk-yeol pourra être poursuivi. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
En Corée du Sud, où l'enquête se poursuit après le crash d'un avion de Jeju Air dimanche.
Le patron de la compagnie a été interdit de quitter le territoire. La police a perquisitionné l'aéroport de Muan où s'est produite la catastrophe. 179 personnes ont péri dans ce drame.
RFI 19h08, ici à Paris. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir avec Margot Ratézic. L'actualité française, le ministre français de la Justice était ce jeudi à Marseille pour s'attaquer à la criminalité et au trafic de drogue. C'est notre dossier ce soir.
Oui, Gérald Darmanin s'est rendu à la prison des Baumettes à Marseille, où la directrice et son adjoint sont visés par des contrats d'assassinat. Bonjour Léopold de Picot.
Bonjour.
Léopold, vous êtes le correspondant de RFI à Marseille et l'objectif de ce déplacement, c'est de montrer que la justice ne sera finalement pas passive face au narco-banditisme.
Oui, très clairement, il y a cette volonté de Gérald Darmanin de montrer qu'il est sur le terrain 2 semaines seulement après sa nomination comme ministre de la Justice, l'occasion de faire le bilan de ses actions passées à Marseille en tant que ministre de l'Intérieur.
On est passé une 50 de règlements de compte mortels en 2023 à une 20, c'est encore trop, mais je constate l'action bénéfique de ce que nous avons pu engager. Il y a aussi, je vous l'ai dit, 41 millions de confiscations, ce qui est important et qui mériterait encore d'être développé. 40% de plus en une année d'interpellation. Et donc nous sommes aujourd'hui devant la masse de ces personnes à traiter, à condamner. C'est pour ça que je suis là, pour améliorer, pour simplifier les procédures, mais pour donner davantage de moyens et d'encouragement aux magistrats.
Et l'objectif, Léopold, c'est aussi de neutraliser les têtes du narcotrafic qui sont déjà en cellule. 40 000 téléphones portables ont été saisis dans les prisons françaises l'an dernier.
Oui, en effet, Gérald Darmanin insiste, il faut empêcher les chefs de gang de gérer leur business depuis leur cellule grâce à la corruption de fonctionnaires souvent menacés avec leur famille.
Personne ne comprend que ces personnes peuvent communiquer à l'extérieur, commander des assassinats, corrompre des fonctionnaires ou pouvoir faire continuer leur point de deal. Mais nous allons alourdir, en tout cas c'est ce que je souhaite, alourdir les peines contre ceux qui menacent, corrompent les agents de l'État.
Donc Gérald Darmanin évoque aussi sa mesure choc, celle d'isoler les individus les plus dangereux, comme cela se fait pour les terroristes, une mesure qui peut être affinée d'après Florent Botard, délégué régional de l'Union syndicale des magistrats.
C'est une mesure choc. Nous, on fait plusieurs propositions pour des mesures plus affinées, éventuellement avoir des prisons dédiées pour ce type de détenus, avoir des structures dans lesquelles on surveille mieux les contacts, dans lesquelles on surveille mieux l'utilisation des téléphones. On peut avoir des prisons dédiées dans lesquelles il y a des brouilleurs de téléphone, par exemple.
Les magistrats demandent également plus de moyens financiers et technologiques, Léopold ?
Oui, Florent Boitard rappelle que le budget de la justice est en deçà des standards européens. Il aimerait aussi des logiciels d'analyse de dossiers basés sur l'intelligence artificielle, comme cela se fait d'ailleurs. Selon lui, la lutte contre le trafic de drogue passe aussi par un processus d'accompagnement économique, social et éducatif par les pouvoirs publics. Gérald Darmanin n'a pas fait d'annonce en ce sens.
Merci Léopold Picot, correspondant RFI à Marseille.
Également en France, les suites du cyclone Chido sur l'archipel de Mayotte.
Le projet de loi d'urgence sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine et non pas ce vendredi comme c'était annoncé. L'entourage du Premier ministre François Bayrou dit vouloir prendre le temps de la concertation avec les élus.
Allez, ce bras de fer à présent entre le Honduras et les États-Unis.
La présidente hondurienne Xiomara Castro a menacé de fermer les bases militaires américaines sur son territoire si Donald Trump mettait ses promesses à exécuter. Promesse d'expulser en masse des Honduriens après sa prise de fonction à la fin du mois. Presque 2 millions de ressortissants du Honduras vivent aux États-Unis, illégalement pour la plupart. Et les autorités de Tegucigalpa ne cachent pas leur inquiétude. Suzanne Marion.
Si ces expulsions massives sont mises en œuvre, elles pourraient concerner 250 000 Honduriens, selon les autorités du pays d'Amérique centrale. Des immigrés qui contribuent au développement de l'économie du Honduras, mais aussi à celle des États-Unis, comme le rappelle la présidente Xiomara Castro.
Nuestros migrantes, que por norma...
Nos migrants apportent généralement une grande contribution à l'économie américaine. Face à l'hypothèse d'une expulsion massive de notre peuple, nous devrions envisager un changement dans nos politiques de coopération avec les États-Unis.
Xiomara Castro, qui dit espérer un dialogue constructif et amical avec la future administration Trump, menace donc à mots couverts.
Ils ont maintenu des bases sur notre territoire sans payer un centime pendant des décennies. En cas d'attitude hostile, ces bases pourraient perdre toute raison d'être pour le Honduras.
Environ 1000 ressortissants américains, civils et militaires, vivent sur la base José Enrique Soto Cano, construite en 1982 dans le centre du Honduras. Elle joue un rôle clé dans le commandement sud des États-Unis, utilisé pour des opérations de lutte contre le crime organisé ou de déploiement d'aide humanitaire.
En France toujours, la mobilisation des salariés de la fonderie de Bretagne. Le site industriel est menacé de fermeture. Environ 300 emplois pourraient disparaître. Plusieurs responsables syndicaux ainsi que des députés ont adressé une lettre à Emmanuel Macron. Ils veulent que le président intervienne auprès de Renault pour que le groupe automobile s'engage à maintenir ses commandes jusqu'en 2028. Anne Verdaguer.
Dans cette lettre signée notamment par la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, Renault est accusé d'avoir fait capoter le projet de reprise de cette fonderie qui était en pourparlers avec le fonds allemand Private Assets, candidat à sa reprise. La fonderie de Bretagne, qui est une ancienne filiale de Renault, avait été vendue en 2022 à un autre fonds d'investissement allemand. Au terme déjà d'une longue lutte sociale, de nouvelles négociations avaient été entamées en juillet dernier car l'usine est en grave déficit. Après plusieurs mois de discussions et à la surprise générale, le constructeur automobile qui représentait 95% du chiffre d'affaires de l'usine a remis en question ses volumes d'achat sur les trois prochaines années. Les responsables syndicaux et les élus signataires appellent donc le président de la République à faire pression sur Renault pour que le constructeur s'engage à maintenir des commandes jusqu'en 2028, l'accusant de vouloir délocaliser sa production alors que le groupe a touché 298 millions d'euros d'aide publique en 2023 et a bénéficié d'un prêt garanti par l'État de 4 milliards d'euros pendant le Covid.
Il y a 40 ans, l'Inde connaissait la pire catastrophe chimique de l'histoire. Au moins 20 000 personnes sont mortes dans les années qui ont suivi l'explosion d'une usine de pesticides à Bhopal. Ces déchets commencent tout juste à être déplacés, mais pour les défenseurs de l'environnement, l'opération reste insuffisante. À Bangalore, la correspondance de Combest.
Ce sont 337 tonnes de déchets qui sont déplacés ce jeudi dans des camions. Un convoi doté du protocole de sécurité le plus important jamais observé dans le domaine des déchets industriels, déclarent les autorités. Ils seront acheminés vers un site où ils seront incinérés à 225 km de là. Ces déchets sont issus d'une fuite d'isocyanate de méthyle, un gaz ultra mortel dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984. Malgré des conséquences sanitaires catastrophiques, la multinationale américaine incriminée n'a versé que des compensations jugées dérisoires et le site polluant était depuis abandonné au cœur de Bhopal où vivent plus de 2 millions d'habitants. 40 ans plus tard, la haute cour de Bhopal a finalement ordonné qu'il soit déplacé, mais les activistes locaux sont sceptiques face à l'opération de dépollution. Non seulement cela ne représente qu'une infime partie des déchets, mais leur incinération risque d'occasionner une dangereuse pollution de l'air. Le cauchemar de Bhopal semble donc loin d'être terminé. Combastin, Bangalore, RFI.
Combastin dans le grand journal du soir qui était présenté ce soir par Margot Ratézic. Merci à vous, 19h16 ici à Paris.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et on jette un coup d'œil au programme des prochaines minutes sur Radio France Internationale. Nous irons en Syrie pour recueillir les réactions de la population à cette main tendue des nouvelles autorités vers les nombreuses minorités qui composent le pays. C'est une politique, vous l'entendrez dans notre reportage, qui est diversement appréciée. Et puis, vous connaissez peut-être Marius, œuvre majeure du français Marcel Pagnol. Marius est actuellement joué par une troupe composée notamment d'anciens détenus, fruit d'une rencontre improbable en prison. Entretien à suivre. Pour l'heure, voici les sports sur RFI. Bonsoir Cédric de Oliveira.
Bonsoir Romain.
C'est
voilà.
Mieux avec un
ouais,
micro.
Oui, c'est mieux comme ça. Voilà.
Bonne année.
Bonne année à vous également.
Le basket pour
les. Ils ont fait des amabilités, c'est bien.
C'est très important. Aux États-Unis, les conséquences de l'attentat de la Nouvelle-Orléans sur la NBA.
Oui, moins de 48 heures après le drame, les réactions se multiplient. Et les joueurs de la franchise de la Louisiane ont fait part de leur émotion. Certains ont longtemps cru que leurs proches avaient été touchés lors de l'attaque. Ils ont dû tout de même jouer la nuit dernière sur le parquet de Miami. The show must go on, comme on dit aux États-Unis. Les Pelicans de la Nouvelle-Orléans n'avaient pas du tout la tête au basket et se sont logiquement inclinés 119 à 108 en Floride. Difficile évidemment d'être totalement concentré dans un tel contexte selon leur entraîneur Willie Green.
Je suis dévasté. Nos cœurs, nos prières, nos pensées vont à toutes les familles meurtries. C'est un acte de violence insensé. Nous en avons parlé avec les joueurs. Nous vivons à une époque où l'on ne sait pas où on est en sécurité. Je ne peux qu'imaginer ce que vivent ces familles et ce qu'elles devront affronter pour le reste de leur vie. Il est parfois difficile d'essayer de jouer un match de basket, de mettre en place un plan de jeu et tout le reste, quand on réalise qu'il y a tellement de choses plus importantes que ce match. Mais en même temps, nous avons la responsabilité d'entrer sur le parquet et de donner le meilleur de nous-mêmes.
Willie Green, l'entraîneur des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, pour l'instant bon dernier de la conférence Ouest avec seulement 5 victoires en 34 rencontres. C'est le pire bilan des 30 équipes engagées en NBA. À noter que l'émotion risque d'être encore vive lors du prochain match des Pelicans qui est prévu dans la nuit de vendredi à samedi, cette fois sur leur parquet, donc à domicile face à Washington. Et puis Romain, le principal événement sportif de l'année aux États-Unis, le Super Bowl, c'est la grande finale de la saison de football américain, est prévu à la Nouvelle-Orléans. Ce sera le 9 février prochain.
Et il est donc maintenu. Le football à présent, Cédric, et pas de trêve en Europe, notamment en Italie.
Oui, les clubs de Serie A ont joué pendant les fêtes. Le calendrier qui est aussi occupé par la Super Coupe d'Italie, dont la phase finale a lieu à Riyad, en Arabie Saoudite. Un mini tournoi de 4 équipes qui commence avec la première demi-finale ce jeudi. L'Inter Milan défie l'Atalanta Bergame, l'irrésistible leader du championnat. Les Interistes, eux, restent sur 13 matchs sans défaite. Ça promet donc un joli spectacle entre les deux clubs de Lombardie. Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter, sait en tout cas qu'il aura fort à faire face à ce nouveau cador du foot italien.
S'affrontano due squadre che stanno avendo un grandissimo percorso. Les deux équipes qui se rencontrent aujourd'hui sont en train de faire une grande saison, en Serie A comme en Ligue des Champions. La grande réussite de l'Atalanta, hormis avoir remporté la Ligue Europa la saison dernière, ce qui est évidemment une performance incroyable, c'est qu'ils ne sont plus vraiment l'équipe surprise. Cela fait plusieurs années qu'ils sont au top dans toutes les compétitions, donc ce sera un match difficile pour nous. C'est toujours le cas contre l'Atalanta. On devra être à notre meilleur niveau contre un adversaire très en forme.
Simone Inzaghi avant Inter Milan Atalanta Bergame, ce sera à partir de 19h temps universel. Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre la Juventus Turin et l'AC Milan, match qui aura lieu vendredi. La finale aura lieu lundi, toujours à Riyad.
Et puis le tennis, la saison ça y est lancée, le premier tournoi de l'année a lieu en ce moment à Brisbane en Australie.
Oui, c'est quelques jours avant l'Open d'Australie, le premier grand chelem de la saison, et on connaît le tableau des quarts de finale. Le Serbe Novak Djokovic en fera partie, il a battu Gaël Monfils en 2-7, 6-3. Djokovic qui affrontera l'Américain Opelka en quart de finale. Ça passe également pour le jeune Français Giovanni Pecci-Péricard qui est lui venu à bout de l'Américain Francis Tiafoe en 2 manches, 6-4, 7-6. Prochain adversaire, le Tchèque Jakub Mencik.
Eh bien, merci pour ce journal des sports, Cédric De Oliveira, 19h21, ici à Paris. Et direction à présent la Syrie, où le nouveau régime multiplie les signes d'ouverture. En témoigne la première visite à l'étranger du nouveau chef de la diplomatie, c'était hier en Arabie Saoudite. Une politique pour faire face notamment aux défis des nombreuses minorités qui composent la Syrie. Alors comment cela est-il perçu par la population, cette main tendue? Eh bien diversement. Pour certains, le nouveau chef Ahmed Shara cherche d'abord à rassurer les États-Unis, à rassurer en général la communauté internationale, tandis que d'autres voient dans cette démarche un message vraiment d'unité, rappelant que par-delà les différences religieuses et culturelles, eh bien tous les Syriens partagent un même destin. C'est un reportage à Damas de Mohamed Erami.
Dès son arrivée au palais du peuple situé au sommet du mont Kaïsion, à l'ouest de Damas, le président de la nouvelle administration syrienne, Ahmed al-Shara, n'a cessé de recevoir des délégations officielles et non officielles venant de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Il s'efforce d'envoyer des messages rassurants aux Syriens, affirmant que l'ère de la répression et des libertés est révolue avec le départ de Bachar al-Assad. Ces messages semblent avoir atteint de nombreux Syriens, comme en témoigne un groupe rencontré dans le quartier de Mezeh. Ils ont particulièrement apprécié qu'Al-Shara, malgré ses origines islamiques conservatrices, reçoive une délégation représentant les communautés chrétiennes de Syrie en pleine période des célébrations de Noël et du Nouvel An. On écoute quelques réactions de Syriens interrogés dans les rues de Damas concernant cette politique d'ouverture des nouvelles autorités syriennes.
Nous, Syriens, sommes unis et nos confessions ne font qu'une. Peu importe la diversité de nos confessions, nous resterons un seul peuple. Sous la direction du leader Ahmad al-Shara et du conseil dirigeant, nous espérons renforcer notre coopération pour reconstruire la Syrie ensemble.
J'ai le sentiment que le pays se dirige vers une phase de reconstruction, même si ça va prendre du temps. Et ces rencontres prouvent que notre nation sera exempte de toute discrimination.
Sur le plan des relations internationales, les États-Unis, qui réclamaient autrefois la tête d'Ahmed Shara, cherchent aujourd'hui à le courtiser et à le rencontrer. Cela reflète, selon les Syriens comme le jeune Obeid, sa capacité à construire de bonnes relations avec les nations, contrairement à l'ancien régime.
C'est le climat que souhaitent les États-Unis et l'Occident. L'image que présente Al-Shara est satisfaisante pour l'Occident, contrairement à l'ancien régime. Al-Shara est parfaitement conscient de ses objectifs dans ses démarches, visant à réconcilier la Syrie avec les différentes nations du monde.
Depuis la chute de Bachar al-Assad, Al-Shara a accueilli des dizaines de délégations issues de la plupart des pays arabes, de l'Union européenne et des voisins de la Syrie. Toutes ont exprimé leur volonté de soutenir économiquement le pays après ces rencontres. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Et retour en France, 19h, bientôt 24 minutes, ici à Paris. Et voilà à présent une aventure qui a débuté il y a 10 ans. Dans une prison du sud de la France, le metteur en scène Joël Pommerat rencontre Jean Ruimi, qui outre le fait d'être un détenu, est bien également un grand passionné de théâtre. Joël Pommerat s'avère touché par le désir de ce dernier et tous deux se mettent à travailler ensemble pour adapter avec d'autres prisonniers une pièce emblématique du grand Marcel Pagnol, Marius. Toute la troupe désormais est en tournée pendant un an et notre journaliste Muriel Malouf a rencontré Jean Ruimi. Entretien.
Bonjour Jean Ruimi.
Bonjour.
Vous jouez le rôle de César dans l'adaptation de Marius, de Marcel Pagnol, mise en scène par Joël Pommerat. Alors, c'est une aventure qui a commencé en prison. Marius, qui rêve de large, qui rêve de liberté, j'imagine que c'est un thème qui vous a parlé dès le départ.
Vous savez, la pièce, qu'est-ce qui se passe? C'est que Marius, il est enfermé dans cette boulangerie, en lui-même, avec Fanny, avec son père. Il voudrait partir, mais il aime Fanny, il aime son père, il ne veut pas les laisser, alors il ne sait pas comment faire. Mais c'est plus fort que lui. La liberté, elle est là. Et justement, c'est pour ça que cette pièce, elle est forte par rapport à nous, parce qu'il y a la liberté dedans. On était enfermé. Vous voyez, et quand on a joué, ben, nous, on se voyait libre.
Et qu'est-ce que le théâtre en prison vous a apporté?
Ben, la liberté, tout simplement, la liberté de jouer. Parce que vous savez, en centrale, la plupart des centrales, et encore plus Arles, on appelle ça un mouroir. Parce qu'un jour, c'est un an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est toujours pareil. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup d'activité. Dans les maisons d'arrêt, ça bouge, parce qu'il y en a qui rentrent, qui sortent. Arles, non, vous rentrez, et c'est, la plupart, c'est des grosses peines. Il reste, voilà, et ça fait qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien. Voilà, c'est, quand il y en a un qui vient, c'est tous les 4-5 ans qu'il arrive, on parle un peu avec lui, mais voilà. Et c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé là-bas, je voulais faire quelque chose, une activité, parce que je me disais, c'est un mouroir, on ne va pas mourir là-dedans, on ne va pas se laisser aller. Et je voulais créer ça, voilà.
Alors, c'est une adaptation où il y a beaucoup d'humour. C'est une chose que vous avez voulu dès le départ.
Oui, bon, déjà, Pagnol, il y a de l'humour. Il y a de la tristesse, il y a de la colère, mais il y a de l'humour. Et nous, on a, justement, avec Joël, on ne voulait pas refaire exactement comme Pagnol et Rému. Parce que, bon, pour moi, déjà, c'est, et pour Joël aussi, on sait que c'est des maîtres. Ça fait que du coup, on a dit, bon, on l'a fait, mais à condition qu'on revisite tout.
Il y a une phrase qui résonne aussi, c'est quand Marius dit que quelque part, il se meurt dans cette boulangerie. Il est en train de mourir, là.
Ben, vous savez, c'est les paroles qu'on entend dans les prisons. Je meurs, le mouroir. Le mouroir, c'est quoi? C'est mourir en prison. C'est pour ça que je voulais faire cette pièce avec Joël, et Joël aussi. Parce qu'il y avait cette liberté qui nous donnait envie de voir plus loin, quoi.
Et cette aventure, elle continue en dehors de la prison, vous en êtes sorti. Le théâtre, j'imagine que ça vous aide maintenant que vous êtes dehors aussi.
Ça m'aide parce que je travaille. Mais bon, ça m'a. Le théâtre, la seule chose que je trouve au théâtre et que je trouve que c'est super, c'est que le théâtre vous mène à réfléchir, vous remet en question. Et ça, c'est important. D'ailleurs, je fais un atelier sur Marseille. Bon, là, en ce moment, je ne peux pas parce que je fais ma tournée, mais sinon, en plein atelier, avec des jeunes détenus qui sortent ou qui sont en permission ou qui ont le bracelet. Et on leur fait justement du théâtre, on leur fait des impros et tout. Et je leur dis à chaque fois, le théâtre, il vous remet en question. Voilà, remettez-vous en question. Le théâtre, il nous donne vraiment une force inouïe pour avancer, pour tout. Voilà.
Merci beaucoup.
De rien, merci à vous.
Voilà, Jean Ruimi, devenu comédien en détention et aujourd'hui en tournée avec sa troupe pour l'adaptation de Marius de Marcel Pagnol, propos recueillis par Muriel Malouf. Et coup d'œil à la pendule, 19h28 ici à Paris. Dans un peu plus d'une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir de ce jeudi. À la une, la Guinée, le procès de l'opposant Alioubaa. Il est poursuivi pour offense et diffamation envers le chef de l'État. Le procureur a requis 2 ans de prison ferme. Et puis, votre session d'info continue évidemment. 19h, temps universel, le journal international. 19h10, TU, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe en Ukraine, à la rencontre notamment d'un neurochirurgien qui se bat pour soigner les blessures de guerre les plus importante. Et puis le grand reportage ensuite qui sera ce soir à Cuba où les artistes se retrouvent aujourd'hui en situation critique. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. On revient dans une minute.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Pour cette première émission de 2025, nous parlons de notre planète et de sa biodiversité au cœur de nombreux enjeux économiques. Protéger les espèces, c'est aussi développer de l'activité et préserver celle des populations concernées. Nous serons en RDC et en Bolivie, au cœur de l'Amazonie.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Pourquoi RFI parle Fulfulde et Mandinkan, les langues Peul et Mandingue ? Avec la rédaction de Dakar, nous revenons sur l'essor de ce pôle régional installé au Sénégal et sur les spécificités du travail des journalistes de ces rédactions.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval, tous les vendredis à 11h10 et 19h41 sur RFI.